Reprenons ce Radio Barc deuxième partie, Michel, avec, pour sommaire, nous l'avions annoncé, le château de Céléran, sur la commune de Saldaude. Alors, explique, je te laisse expliquer, et le passé et le présent.
Oui, bon, c'est comme tout le monde, hein, toi en particulier, puisque tu es le patron de cette radio, donc tu es forcément au fait de toutes les informations qui circulent dans notre petite région, mais j'ai donc appris que les élus de la région, en lisant l'Indépendant, citons-le, avaient décidé d'attribuer un bail éphytéotique de 75 ans au vigneron Gérard Bertrand, que tout le monde connaît ici, l'hospitalier, pour 138 hectares de terre, de bâtiments agricoles et de l'immense domaine de Céléran, qui lui fait 335 hectares, je ne sais plus, qui appartenait initialement à la famille
Toulouse-Lautrec. Qui appartenait siècle à la famille Toulouse-Lautrec, qui venait d'ailleurs, paraît-il, y faire quelques petits séjours estivaux.
Et domaine et propriété, donc avec ces 300 et quelques hectares, qui avaient été rachetés en 2009, au dernier propriétaire de ce domaine, par la région
Languedoc. Et c'est là où ça devient banal.
Qui était présidé par Georges Frêche, et qui avait décidé en 2009, pendant la campagne des régionales de 2009, de créer des parcs d'activités structurants, disait-il, à Castelnaudary, il est toujours vide aussi, il est à Narbonne, notamment dans l'Aude. Deux grands parcs d'activités économiques qui sont tous les deux, depuis, vides. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune activité économique qui a été créée.
Vide, mais pire que ça.
Mais pire que ça, parce que ce domaine, depuis 10 ans, 2009-2018, bon, j'arrondis 10 ans,
a été vide et inoccupé,
mais surtout le château en fait, qui était classé a été pillé.
Pillé, absolument.
Tout simplement, il reste
chemin
plus rien.
Chemin arraché, etc.
Bon, et il a été à l'époque racheté, en fait, 8 millions d'euros, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, mais je me répète, 8 millions d'euros aux anciens, aux derniers propriétaires. Donc, depuis 10 ans, rien. Sinon, une dégradation totale.
Sinon que ça a fait le bonheur de certains malfaiteurs.
Rien. J'apporte une petite nuance quand même. Pendant ce temps quand même, quelques viticulteurs se sont installés avec l'accord de la région pour entretenir un minimum quelques hectares de ce domaine.
Donc la viticulture qui est un peu retrouvée quand même.
Et qui du coup, avec l'arrivée de Bertrand, se trouve mis à la porte.
Oui. Parce qu'effectivement... Et c'est là où est le problème. Problèmes.
Évidemment, ces viticulteurs ne sont pas contents du tout, on saisit un avocat narbonnais pour attaquer la décision, l'arrêter distributif de la région et faire casser effectivement cette location de 15 000 euros par an, 75 ans, payé par le futur bénéficiaire de ce bail, si ce bail est validé par les tribunaux, ce que contestent effectivement les viticulteurs dont je viens de citer les noms. Bref, le problème, Jean-Claude, c'est que dès 2009, et je me souviens avoir fait un billet en 2015 déjà, après avoir discuté avec un ami architecte qui était partie prenante de cette affaire-là de parc d'activité. Dès 2009,
on allait au casse-pipe.
J'expliquais qu'on allait au casse-pipe parce qu'on ne pouvait pas imaginer un parc d'activité économique à cet endroit. Et pourquoi? Mais pour des raisons simples.
D'abord enclavé.
Compte tenu de sa situation géographique, d'abord en pleine zone d'urbanisation. Environnementale ensuite, au milieu et à proximité de zones protégées, d'accès. Pas de liaison routière et autoroutière adaptée. Alors, j'ouvre une parenthèse. Dans sa campagne électorale, quand il a vendu ce parc d'activité économique, Georges Frêche, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais demander, et nous l'obtiendrons, une bretelle autoroutière qui permettra de desservir directement le parc. La bretelle, tu l'as vu, toi? Bien sûr que non. Personne ne pouvait imaginer une bretelle autoroutière. Elle pourrait passer où? Le long de l'Aude, c'était totalement impensable. Il y avait aussi des raisons qui tenaient au fait que le Grand Narbonne, à l'époque, avait la compétence en termes d'aménagement, était en train, justement, de réaliser des parcs d'activité de l'autre côté, du territoire narbonnais.
Côté Morodon.
Direction Lézignan-Morodon, etc., où là, il y a effectivement des possibilités foncières.
Comme
très importantes.
Fait actuellement.
Ce qui a été fait. Enfin, bref, je pourrais citer tous les arguments qu'à l'époque, j'avais développés pour expliquer que c'était une pure foutaise et que jamais, au grand jamais, il n'y aurait un parc d'activité économique.
La foutaise a été faite.
Et j'avais dit, on court vers un scandale régional, un peu dans le site de la Villette, à l'époque, l'époque, célèbre en fait, investissement parisien qui a coûté une fortune et qui était, n'ont jamais vu le jour.
Et ben, il n'y a pas que là-bas. Nous aussi, on est content. On a notre scandale.
Voilà, notre abattoir, si je puis dire, en fait. Un parc d'activité vide. Alors, on me dit, on laisse entendre que peut-être M. Bertrand se serait engagé en fait, à investir 8 millions d'euros en fait, dedans dans son achat.
Oui, mais sur 75 ans, comme le bail emphytéotique dont il dispose.
Cela dit, j'attends de voir quand même. Mais il n'empêche, quoi. Hein, si on actualise les 8 millions payés en 2009, en 2009, ça fait à peu près 11 ou 12 millions. Le contribuable, pendant ce temps, il a déboursé la somme en question, sans rien mauvais.
Une fois de plus, voilà.
Une fois de plus, oui. Comme
alors, sujet suivant, il va nous servir de transition avec notre invité, M. Stéphane Jolivet. À propos, donc, de la future opération Portes Ouvertes, qui se situe mi-juin.
Oui.
Madame Arditi, que nous avions à ce micro il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, bien connue comme défenseur de l'écologie. C'est un petit peu élevé contre cette opération.
Pas élevé, oui. Elle n'a pas envoyé une lettre à Élise, à Stéphane Jolivet, mais enfin, elle a envoyé une lettre par la voix de l'indépendant.
De manière argumentée.
Dans le style, voilà, Monsieur Jolivet. Et c'est son droit, en fait, absolu, en fait, première remarque intelligente et pertinente de Mme Arditi, quand même. Hein. Il reçoit dans son usine en fait, ceux qui veulent bien y venir pour expliquer à tous ses visiteurs ce qu'il fait, comment il le fait, avec quelles conséquences, quels effets, dans quel intérêt. En même temps, certainement, un petit cours aussi sur les différents modes de production de l'énergie dans notre pays, les anciens, les nouveaux, en fait, et ce qu'on peut imaginer à l'avenir. Donc elle dit c'est bien, en fait, etc. Mais cela dit quand même, en fait, ça c'est la mineure, ça fait un peu propagande dans son esprit, quoi, hein, un peu propagande quand même, bon, et c'est pas très bien. Et comme je suis diplômé en physique nucléaire, que j'ai quelques compétences en la matière, je propose donc qu'à la sortie ou quelques jours après, ces mêmes visiteurs viennent chez moi, mais où on n'en sait rien, quoi. Hein. Je leur ferai aussi, moi, une leçon sur ce sujet. Alors bon, jusque-là, rien à dire, sinon on fait remarquer que, elle fait tout simplement son boulot, son job de militante environnementale pour tenter effectivement de faire valoir et défendre ses points de vue. Mais ce qui, moi, a retenu mon attention, c'est que ce que fait M. Jolivet n'est pas nouveau. Il fait partie de ce qu'on appelle, en fait, dans le monde de l'économie touristique, le tourisme industriel, hein, qui consiste,
à ouvrir les portes, à montrer,
et à faire visiter, en fait, hein, l'usine en question, comment elle travaille, avec qui, pour quelles raisons, etc. Et ça marche très bien, d'ailleurs, puisque le premier musée, en fait, visité de notre région Occitanie, si nos éditeurs ne le savent peut-être pas, mais c'est le musée de l'entreprise Haribo, en fait, dans le Gard. Dans le Gard où...
Alors, précise que c'est pas du nucléaire.
Ah non, pas du tout, c'est bonbons. En fait, des bonbons. Alors là, il y a un monde de fou. Le premier musée, je veux dire, il dépasse tous les autres. Il est très loin, quoi. Hein. Et à la sortie, évidemment, à la sortie de cette visite, après cinéma, en fait, on monte tout, quoi. Hein. Et à la visite, évidemment, les parents, les enfants sortent avec des kilos, en fait, avec des kilos de bonbons. Ce qui, entre parenthèses, d'un point de vue de la santé publique, donc environnementale, n'est pas...
Devrait déclencher des polémiques cela ne déclenche pas.
Pas du tout, au contraire. Donc, les enfants vont bouffer du sucre pendant toutes les soirées, pendant je ne sais combien de mois, grâce à Haribo, hein, et personne n'ira protester au motif qu'effectivement, ces enfants risquent de graves maladies,
C'est comme ça seulement, voilà. Le nucléaire, en France, ça hérisse un certain nombre de poils, c'est tout à fait différent.
Voilà, mais en même temps, pourquoi pas. Pour un individu, vos enfants surtout, des scolaires, savoir comment ça marche et ce qu'est l'énergie, comment on la produit, c'est pas, ne serait-ce qu'un point de vue purement intellectuel, inutile, c'est même au contraire très formateur.
Voilà, donc, et on va en savoir beaucoup plus tout de suite après cette deuxième pause, puisque, je le rappelle, notre invité du jour est Stéphane Jolivet, qui est le directeur de l'usine actuelle, donc Orano Malvézy.